Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Cet été, nous vous proposons une série exceptionnelle née d'un lieu, d'un instant et d'une promesse, celle que la parole, quand elle est juste, vivante et partagée, peut ouvrir un monde. C'était début juillet, nous étions à Lourmarin, en plein cœur du Festival des Arts de la Parole, sur la terrasse de l'Hôtel du Moulin, chaque matin, le temps d'un café. Artistes, penseurs, comédiens, musiciens, théologiens, élus ou bénévoles, toutes et tous sont venus nous parler simplement à voix nue. Ce mois d'août, nous vous proposons ainsi 4 émissions pour revivre des morceaux choisis de ces rencontres, les 3, 10, 17 et 24 août, puis 3 autres rendez-vous viendront dans l'année. Pour prolonger cet écho de paroles vives avec la réalisatrice Stéphanie Pilonka, les philosophes Olivier Abel et Raphaël Liogier et la comédienne Marion Combe. Voici donc en public le temps d'un café, un espace de rencontre où les mots prennent leur temps et leur sens. Pour cette première, nous écouterons Olivier Arnera, directeur artistique du festival, et nous plongerons ensuite dans l'univers de Jean Giono avec le comédien Robin Renucci qui ouvrait le Festival des Arts de la Parole avec une lecture de Que ma joie demeure. Olivier Arnera, on sent chez vous cette passion d'une parole qui transforme. Elle est engagée, fraternelle, porteuse de sens. Parlez-nous de ce chemin de l'homme, en quelque sorte, qui se cache derrière ses multiples casquettes.
Parler d'un chemin, c'est évidemment long, ça nous prendrait plus d'une émission. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce chemin, l'intérêt pour la parole a toujours été là. Et en fait, chaque année, au Festival des Arts de la Parole de Lourmarin, nous interrogeons une dimension de la parole. Cette année, voilà, je trouve que c'est une dimension passionnante, celle de la parole performative. C'est-à-dire, en fait, cette question qui est toujours posée à la parole. Oui, vous parlez, mais c'est pas beaucoup suivi des faits. Vous avez dû entendre ça.
Oh oui, ça arrive. Ouais,
et puis tous les professionnels de la parole en entendent ça tout le temps.
Parole,
exactement.
L'art de la parole, c'est un art extrêmement riche et multiple.
C'est extrêmement vaste. Et vous savez que mon chemin m'a mené aussi sur le terrain de la théologie. Et c'est dans le mot même, le sens du mot parole, d'abord, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut revenir. Parce que la parole, c'est la parole articulée, mais c'est aussi le mouvement, le geste, l'action. Donc ouais, il y a déjà tous les arts de la parole dans ce mot.
Qu'est-ce qui vous émeut le plus dans ce festival, année après année?
Un acteur célèbre qui était venu au festival m'a dit récemment, on trouve dans ce festival l'élan de ce qu'il avait trouvé au tout début des grands festivals, comme ce qui est devenu le Festival d'Avignon, mais ouais. Le premier élan, la naissance, l'origine. Et c'est cette impression de participer avec d'autres à quelque chose qui est en train de naître et qui, peu à peu, est en train de nous dépasser.
Alors, vous signez un très bel édito dans le programme qui est donné aux festivaliers, où revient plusieurs fois ces mots, une simple phrase peut. Et je mets 3 petits points derrière, parce qu'à chaque fois, le verbe qui arrive est différent. Que peut-elle faire, cette parole, Olivier Arnera?
Alors, vous savez, c'est dans la science linguistique, pendant des années, on a surtout défini la parole comme ce qui dit le monde. Et puis arrive John Austin aux États-Unis qui tout d'un coup change tout parce qu'il dit non, la parole n'est pas que constatative, elle est transformative. Une parole transforme le monde et ça change tout. Alors c'est quelque chose qu'on savait depuis longtemps. Vous le savez bien, une simple parole peut faire en sorte que 2 personnes soient mariées. Une simple parole peut aussi faire en sorte que 2 personnes se divorcent. Une simple parole peut faire une déclaration de guerre, faire une guerre mondiale ou une déclaration de paix. C'est-à-dire il y a un lien direct entre la parole et donc l'acte. Et je vous ferai remarquer juste le titre de notre festival, c'est « Sitôt dit, sitôt fait », mais il y a un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout le temps les questions qu'on nous pose. Mais à quoi ça sert finalement de parler? On a mis un point d'interrogation, mais on aurait pu mettre un point d'exclamation. Parce qu'en fait, si justement on se réfère aux racines même de la Genèse dans la Bible, c'est un point d'exclamation. Ah oui. Dieu dit, il fait, et en plus il dit c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est l'origine, c'est le verbe créateur. Et puis aussi, on peut mettre des points de suspension. Et les points de suspension, c'est aussi toutes les questions que pose aujourd'hui. Maintenant qu'on le sait, que la parole transforme, eh bien, il y a la perversion de parole.
Alors c'est-à-dire... on est au cœur de ce sujet, dans la politique, dans le monde
actuel.
Exactement.
On est à fond là-dedans. Et donc, les infox, les fake news, les vérités alternatives.
Toutes les nouvelles technologies qui peuvent permettre aussi de faire dire des choses. Ne sont pas... Enfin, voilà, on a tous en tête plein d'exemples.
C'est ça. Et donc, ces points de suspension, qu'est-ce qu'on va devenir ? Donc, en fait, ce festival nous aide aussi, en tout cas, cherche à nous aider à discerner. Vous connaissez peut-être un ancien prêtre psychanalyste, Denis Vasse, qui critiquait beaucoup le discours du savoir, et en particulier le discours religieux. Et il disait souvent, on dit, et du moment qu'on dit, ça nous exonère de faire.
Ah oui.
Du moment qu'on le dit, et il disait ça, c'est la perversion de la parole. Du moment que c'est dit, on le fait pas. Eh bien, les trois points de suspension, c'est pour dire non, il y a un lien direct entre la parole et l'acte, on peut pas les dissocier.
Ce festival laisse aussi transparaître une certaine dimension chrétienne et protestante, discrète, mais bien présente. Alors, il y a des thèmes abordés, je pense à l'exposition et la pièce sur Martin Luther King, l'évangile de Marc, la voix qui crie dans le désert, des lieux de ce festival comme le temple en particulier avec deux cultes artistiques et puis des artistes ou intervenants en lien direct avec la foi. C'est aussi quelque chose d'important dans l'organisation de ce festival. Vous avez parlé de théologie tout à l'heure.
La dimension spirituelle, voire la dimension théologique, fait partie en effet des champs d'exploration. C'est extrêmement important pour nous que cette dimension-là soit posée. Et d'ailleurs, un acte que nous avons posé, c'est un partenariat directement avec l'Église protestante qui fait partie des partenaires de la programmation, tout autant d'ailleurs que la mairie. Et donc c'est intégrer ou réintégrer la question de la théologie et de la spiritualité à l'intérieur de la réflexion commune.
J'aimerais revenir encore sur la thématique avec cet enjeu du pouvoir de la parole et puis un peu jouer avec vous tester sur le sujet. Si vous deviez vous-même prononcer maintenant une phrase performative ce matin, là, au micro, sur cette terrasse, qu'aimeriez-vous faire avec vos mots ?
J'ouvre le Festival des Arts de la Parole.
Bien.
Et ça y est, il est ouvert.
Il est ouvert, ça y est. Mais c'est marrant cette phrase, j'ouvre les Jeux Olympiques, tel festival, tel événement.
Une ouverture de saison, tant que la parole n'a pas été prononcée. Et ce qui est d'autant plus marrant, c'est qu'il ne faut pas que n'importe qui la prononce.
Et oui,
c'est-à-dire que si c'était quelqu'un d'autre qui était au micro, là, qui venait et qui vous dit j'ouvre le festival, ça n'a pas le même pouvoir. Non. Parce qu'il faut que la personne soit sur un lieu d'autorité, où elle soit reconnue dans une autorité. Et il y a toutes sortes de dispositions. Et à ce moment-là, il faut que ce soit le président de la République qui dit « j'ouvre les Jeux Olympiques », sinon ça ne marche pas.
Oui, oui. Olivier, pour finir ce café matinal, si vous deviez déposer un mot, un vers, qui vienne de votre texte, qui vienne de votre cœur ou de votre foi, si vous deviez le déposer dans la tasse de nos auditeurs ce matin, puisque c'est le temps d'un café, quel mot serait-ce ?
Peut-être c'est une expression, Jean-Luc, c'est magie d'un moment, magie d'un instant. Je pense que ce qui est très compliqué à expliquer, là, voyez, je suis là pour parler d'un festival, mais j'ai envie de dire que c'est assez unique que nous nous retrouvions, alors, à Lourmarin ou ailleurs, mais à un moment, cette impression qu'on est dans un moment unique, magique, et là... C'est prodigieux. Et en fait, qu'un festival soit une suite de moments magiques.
Merci Olivier Arnera et bon festival qui est ouvert puisque vous l'avez dit.
Voilà, ça y est, c'est ouvert.
Que ma joie demeure. Jean Giono, 1935. Ce qu'il faut, c'est mettre l'homme à sa place. Ne pas le faire le centre de tout. Une montagne existe non seulement comme hauteur et comme largeur, mais aussi comme poids, effluve, geste, puissance d'envoûtement.
Eh bien, bonjour Robin Renucci, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, beaucoup vous connaissent pour vos rôles marquants au cinéma, évidemment, moi le premier. Mais au-delà de l'image, vous êtes un homme de parole, un homme de théâtre, de transmission, d'écoute. Et à Lourmarin, vous portez à hauteur de voix ce soir un choix de texte de Jean Giono, chargé de nature, d'imaginaire et d'incarnation. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qui vous touche le plus dans « Que ma joie demeure » ?
Ah, c'est un très beau roman, c'est une façon de voir le monde, avec ceux qui en sont parfois dont l'âme est alourdie par le sentiment d'une vie difficile. C'est le cas de ces paysans du plateau de Grémone dans l'histoire, qui est écrite en 1935. Donc un lien très profond avec l'histoire du monde, les sentiments peut-être d'angoisse de Jean Giono et de ces paysans qui vivent, qui pourraient être heureux bien sûr, qui ont à peu près tout, puisqu'ils ont une nature sublime autour d'eux, d'elles, mais ils ne savent pas qu'elle est si belle. Et Giono fait poser le regard de chacune et du lecteur, surtout sur la beauté de la nature, c'est la première des choses, puis ensuite de la vie ensemble, qui dans ces plateaux où la solitude est de mise, le travail très 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 difficile,
très dur,
fait que ben on se fatigue et puis la vie devient plus monotone et puis on ne voit plus assez la beauté de la vie. Et comme un personnage va arriver qui s'appelle,
et oui, on va en reparler,
Bobby,
ce Bobby
qui va tout transformer pendant le temps de sa présence, Giono nous raconte que notre vie peut être vu de deux points de vue, voilà, entre le plaisir de désirer ce que l'on possède, au fond, et la joie qu'on peut en avoir, ou bien désirer quelque chose qu'on n'a pas et être dans la frustration et parfois dans l'absence de désir, ce qui est le malheur.
Le pire, peut-être, oui. Et comme souvent, un texte ancien qui devient finalement très contemporain, qui nous parle aussi d'aujourd'hui, d'une autre façon, peut-être,
ben oui, sur la nature, je le disais, sur les liens qui se défont aussi entre nous, beaucoup, avec une société de communication telle qu'on l'a décrit, mais qui, au fond, fait de nous des émetteurs et des récepteurs, et très peu des êtres de relations profondes. Le métier du théâtre, qui est le lieu de la relation, et le lieu de la lecture notamment, la transmission, la relation profonde qu'il peut y avoir entre une oreille et des poumons et des cordes vocales de quelqu'un, et un auteur entre nous qui nous fait voyager dans l'imaginaire, c'est ce qui reste de plus proche et propre à la, je trouve, à notre société qui est en manque de cela.
Comment ça s'appelle ici ? Dit l'homme. Plateau Grémone. Ah, vous êtes nombreux ? Une vingtaine. Un village ? Non, des fermes isolées. La terre est bon marché, les champs sont grands. Et vous êtes loin les uns des autres ?
Oui, nous sommes loin.
Tu vis seul ?
J'ai ma femme.
Écoute, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider ? Une supposition que tu restes un jour ou deux, ton patron, il ne te dira rien ?
Non ? Tu t'appelles comment ?
Appelle-moi Bobby.
Bobby, tu bois du café ?
Oui, tous les matins.
Alors viens le boire à la maison.
Comme ils revenaient vers la maison, ils entendirent des voix joyeuses. Jacou venait d'arriver de la ferme de la Fauconnière avec toute sa famille. La vieille, la jeune, le gendre, les enfants. Quelle bonne idée ! Entrez, entrez ! Venez avec moi, les enfants, dit Marthe. Très bien, dit Jourdan en tapant sur l'épaule de Jacou. Tu ne t'imagines pas ce que je suis heureux. Ça faisait longtemps. Le fils Karl est là aussi, et il nous a dit que son père allait venir. Mademoiselle Aurore et sa mère sont venues prendre le café ce matin, et elles sont encore là. On va leur dire de rester. Mais en voilà d'autres ! C'est Randoulé ! J'amène un chevreau, tout prêt, tout bardé, roulé dans sa crépine. Il n'y a plus qu'à l'embrocher. Allez, descends, Karl. Mon père est avec toi ? Oui, j'ai dit à ton père et à ta mère de profiter de la carriole. Je suis là, tout mélangé avec les paniers et les bouteilles, et je me démélange et j'arrive, dit Karl. Nous avons perdu Zulma, dit Honorine.
Comment ça perdu ?
Mais nous ne l'avons pas trouvée pour l'emmener avec nous. Elle est venue toute seule. Elle dort.
Elle est là ?
Oui, ne vous inquiétez pas, on la réveillera tout à l'heure. Allez, on va embrocher ce chevreau avec le lièvre, tout sur la même broche. Faisons le feu, et pour que le ciel s'éteigne, il faudra que ce soit un gros ciel. Hardi les jeunes, et vive les vieux. Faites du feu, je m'occupe de la broche.
» Et ça nous amène à Bobby.
Mais bien entendu.
Le poète acrobate, une sorte de clown un peu, pourrait-on dire, clown poète.
Oui, un saltimbanque, hein, le saltimbanque, vraiment oui. Celui qui est l'homme de cirque, hein, qui apparaît dans toute sa singularité, avec son étrangeté aussi, hein, qui peut faire peur, mais qui est capable de mettre toutes ses deux jambes autour de son cou et de faire une boule avec lui-même et de rouler sur le sol et de transformer cette nature humaine en quelque chose d'autre.
Et c'est lui qui vient réveiller les cœurs.
Oui.
Ça dit quelque chose de la force de l'art, de la culture.
C'est ça aussi. Et ça, c'est formidable de l'écrire en 1936, parce qu'au fond, on va reconstruire un monde après 1945, mais on va bien sûr atteindre cette période, dans cette période de la Deuxième Guerre, tous les fondamentaux de l'amour de la fiction. En fait, la réalité est devenue beaucoup plus forte. Donc lui, il nous rappelle que le rêve, la réalité transformée, la fiction, les animaux, puisque Bobby arrive avec des animaux, avec un cerf absolument magnifique, qui est un cerf de cirque. Et puis le regard qu'il va, par son absence, provoquer, c'est-à-dire à la fois il transforme durant le temps de sa présence, et ensuite, lorsqu'il est parti, eh bien, on continue à avoir envie de planter des fleurs, on a envie de se regarder, de se retrouver, de faire la fête. Ouais. Il en reste beaucoup.
Oui, ouais. La transmission s'est opérée d'une certaine façon.
C'est ça. Il a fait son relais d'amour, peut-être aussi, et de bienveillance et de générosité.
Alors, dans Solae, dans cette émission qui est un regard protestant porté sur le monde, sur la culture, sur la société, il y a bien sûr la dimension spirituelle souvent évoquée. Vous, dans votre approche, est-ce que vous sentez un lien possible avec une forme de dimension spirituelle dans ce retour à la terre, à l'essentiel, dans ce texte de Giono?
Je suis très proche de la pensée de Jean Vilar. Vous voyez, notre travail, c'est toujours dans la communion. C'est une communion laïque, très certainement, mais c'est une communion. C'est-à-dire qu'il y a ce lien profond, spirituel, entre les êtres et la nature, dans notre commune humanité, dans notre commune naturalité. Ouais. Le fait que nous appartenions tous à cette nature, nous en faisons partie, on n'est pas dans le paradigme de l'homme tout-puissant qui est maître et possesseur de la nature. Et aujourd'hui, elle nous le dit bien. Donc, toute cette relation qui est dans un esprit, qui demande à être développée, parce que ce que l'on connaît le plus mal, c'est l'esprit, c'est la pensée, au fond, c'est le cerveau, qui est très très peu encore, qui est un domaine très inconnu. Il y a une part spirituelle très forte de quelque chose qui nous appelle. À tel point que quand on désire quelque chose profondément, on fait une sorte d'appel, de prière aux étoiles. Alors, je ne sais pas si on prie Dieu, mais qu'on fait un appel et que l'on désire quelque chose, il y a quelque chose qui peut s'en suivre. Enfin, je l'ai testé à plusieurs reprises. Ouais, avec beaucoup d'attention de tel expérimenter, à tel point que j'essaie de ne pas en user. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup cette pensée que le bonheur est dans ce que l'on possède déjà, au fond. Avoir des désirs qui sont très, très puissants, surtout dans l'idée d'obtenir quelque chose ou de le posséder, je m'en suis toujours un tout petit peu écarté, car j'ai été extrêmement gratifié de tout ce que j'ai pu faire dans cet appel-là, hein, d'essayer d'être sur un chemin, oui, assez spirituel, et qui fait qu'il y a des réponses à mes appels. Donc je suis attentif à cela.
Vous avez souvent défendu une parole qui fait lien, qui répare, qui instruit sans dominer, et vous venez encore de l'exprimer. Dans le contexte actuel, avec les fractures sociales, politiques, qu'est-ce qui, selon vous, peut produire encore une parole juste?
C'est retrouver le sens de vérité, de ne pas laisser le mensonge s'établir. Ouais. C'est-à-dire que si on nous dit que la Terre est plate et qu'on considère que c'est une opinion et qu'après tout, tu as ta libre pensée, ta libre expression, on peut dire qu'on sert bien sûr la liberté d'une certaine manière, mais on ne sert pas la connaissance, on ne sert pas la vérité. Et je pense qu'il y a des repères de vérité, comme en philosophie, hein, au sens philosophique, qu'il ne faut pas laisser. Il faut être peu indulgent vis-à-vis de cette lacune de laisser faire. Donc ça, déjà, je prends ce premier axe, retrouver un sens de la vérité. Et puis ensuite, la considération que les rapports sont faits souvent de notre animalité, et que notre humanité, c'est notre parole, justement. C'est cette commune parole que nous avons qui nous rend humains et qui, c'est à travers le mot, à travers la langue, qu'en effet, qui est un acte, qui est une action. Dire, c'est déjà une action. Et nommer le monde, c'est le faire de telle sorte que l'on agit sur lui. Donc, à travers la langue, à travers les langues, je pense qu'il y a quelque chose de très important. et s'écarter des rapports de domination avec la langue. Parce que la langue est un outil de domination également. Et le livre est un outil de domination. Donc, comment retrouver le sens réel en s'échappant, hein, ce sont des notions de l'éducation populaire qui m'est chère, qui commence toujours par un sentiment de commune solidarité, au fond, nous sommes reliés les uns avec les autres, et ensuite d'éloigner les dominations, parce que c'est la base même, tant dans des grands pays, on le voit aujourd'hui, des pays entiers qui deviennent dominants, c'est-à-dire le désir et le plaisir d'un président, d'un État ou des États, notamment ceux de l'Amérique, deviennent la puissance, avant d'être la capacité de faire les choses. C'est la puissance sur l'autre, ce pouvoir sur, qui est toujours sur l'autre, que je n'aime pas. Et j'aime cette idée de l'autorité, justement, à travers les auteurs, qui est ce qui nous augmente étymologiquement, et qui est cette partie que l'on aime faire lorsqu'on sait qu'on se fait du bien et on fait du bien aux autres, en lisant une belle parole transmise dans un relais tout simple d'un moment donné où on écoute et l'on dit et on change un peu le monde à ce moment-là. Alors moi-même, je travaille sur comment faire. Bien, je vous avais dit, je dirige un théâtre national, le Centre dramatique national La Criée.
La Criée à Marseille.
Eh bien, dans les projets que nous avons, nous parlons essentiellement de ce que nous venons de nous raconter. Oui. Monter aujourd'hui, par exemple, La Leçon d'Eugène Ionesco, oui, écrite en 1950 par un poète, auteur roumain, vivant en France, aimant la France, aimant la langue française et notre civilisation, écrit le pouvoir des mots qui peuvent être des mots destructeurs à travers un professeur qui va tuer son élève avec des mots. Donc c'est, vous voyez, la fable, la force de la langue. Et surtout, comment il faut se déjouer pour une élève et ne pas se laisser manipuler, ne pas se parler par le langage. Et puis, d'une manière corollaire aussi, je montrais L'école des femmes, avec un très bel acteur, avec François Morel, que j'aime beaucoup, et Suzanne Debecq en Agnès, pour raconter aussi combien la femme, aujourd'hui, qui est dans cette émancipation qui dure depuis de longues années, siècles, mais qui, au fond, n'est jamais accomplie complètement, reste tout de même toujours une inégale vis-à-vis de l'homme, que l'homme a toujours peur de son intelligence, et que raconter L'école des femmes, écrite en 1662, aujourd'hui, c'est encore un sujet politique pour nombre de jeunes filles qui ont besoin de s'émanciper de la toute-puissance masculine.
Dernière question, ce moment s'appelle le temps d'un café. Si cette tasse de café, celle qui est là devant vous, pouvait contenir alors soit un mot, soit une courte phrase de votre univers artistique, lequel choisiriez-vous pour l'offrir aux auditeurs ce matin ?
Relation, je dirais relation, ce qui nous relie, ça a été l'objet de notre conversation. Voilà, on n'est pas seul au monde, nous sommes vraiment reliés, quoi qu'il arrive, les uns avec les autres.
Le soir, tard, les charrettes parties, Jourdan, Marthe et Bobby se retrouvèrent seuls. Jourdan dit, c'est bien la première fois que nous faisons quelque chose ensemble sur ce plateau de malheur. La première fois ? Mais il y a eu une fête aujourd'hui. Ce n'est qu'un début, tu verras, dit Bobby. Tu te souviens de Orion, fleur de carotte ?
Oui, je me souviens, dit Jourdan.
Le champ que tu labourais en pleine nuit et le tabac que tu m'as offert ?
Oui, je me souviens.
Tu avais l'air de traîner une grande peine.
Ah, tu l'as vu ?
Oui.
Plus de goût, plus d'amour, la vieillesse.
Je t'ai dit, Orion, fleur de carotte, ce n'était qu'un petit paquet d'étoiles. Si j'avais dit Orion tout seul, tu aurais vu des étoiles, et pas plus. Ce n'était pas la première fois que tu en voyais. Si j'avais dit fleur de carotte tout seul, tu aurais vu une fleur de carotte comme tu en avais vu mille fois dans les champs. Mais quand j'ai dit Orion fleur de carotte, ça t'a étonné, hein ? Tu as vu une fleur de carotte projetée dans le ciel. Et c'était le début de notre amitié. Tu étais déjà un tout petit peu guéri.
C'est vrai.
Cette image, Orion, fleur de carotte, j'en suis propriétaire. Je l'ai inventée. Elle est à moi. Mais si je ne la dis pas, si je la garde enfermée, si je ne la partage pas, personne ne la voit. Si je la donne, tout le monde la voit. Ce n'est pas ce qu'on garde qui nous fait riche, c'est ce qu'on donne. Tout ce que tu entasses hors de ton cœur est perdu un jour ou l'autre, ou bien il te sera enlevé. Il n'y a pas d'autre grange que celle-là, dit Bobby en mettant la main sur son cœur. Là, la joie demeure. Personne ne peut te l'enlever. Tu veux dire que j'ai ce que j'ai donné, c'est ça? C'est toi qui l'as dit. J'ai ce que j'ai donné.
Et après son spectacle, nous retrouvons Robin Rinucci en bord de scène pour nous livrer ses impressions après cette lecture.
Moi, je voudrais juste vous dire que je suis très heureux de participer à ce festival des arts de la parole. Comme tout à l'heure, vous l'avez entendu, je dirige le Théâtre National de Marseille, La Criée. Notre édito, notre thème cette année s'appelle « Commune parole ». Commune parole, ce terme du commun entre nous qui fait que la parole qui nous relie à tout moment est un soin plus que jamais. Donc je suis à la fois fier, honoré de participer à ce festival parce que je ne savais pas tant que cela où je venais. Je viens dans un village, à Lourmarin, beau village, mais j'ai connu tout au long de la journée, ressenti en tout cas le sens que vous mettiez derrière toute cette pensée du festival qui n'est pas seulement un festival parmi d'autres, mais un lieu qui relie, qui rassemble. Qui souhaitent, dans une forme de spiritualité, nous rendre plus élevés les uns avec les autres. Et grâce aux auteurs, qui sont les poètes la plupart du temps, qui ont les mots plus que nous, souvent, pour nous relier. Donc je voulais participer à cette aventure sans trop le savoir, mais il n'y a pas de hasard, vous voyez. Et je me sens parfaitement à ma place avec vous ce soir. Donc merci beaucoup.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Vincent Abouchard et avec Stéphane Touvenin à la prise de son. Cette émission est à réécouter sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin, sur France 2, 10h, dans Présence protestante, c'est la rediffusion d'un documentaire de Damien Boyer, Une foi qui désarme. Mais pour le moment, sur France Culture, Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations, 9h. Et bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième proposition de cette série où nous entendrons la pasteur Céline Romer, la comédienne Bérangère Warluzel et son metteur en scène Charles Berling, pour Fragments, un spectacle autour de la pensée d'Anna Arendt. Et enfin, trois jeunes lycéennes et leurs professeurs de philosophie autour de plaidoiries présentées à Lourmarin, questionnant l'impossible. Très bon dimanche à chacune et chacun.